Nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous commençons par le verset 54. Le contexte, c'est que Étienne est amené en jugement devant les anciens juifs, les autorités juives, les autorités religieuses. En même temps, ces autorités-là servaient à gérer le peuple d'une certaine manière civile. Et donc, Étienne est jugé parce qu'Étienne était l'un des plus zélés qui prêchait l'Évangile. Et donc, il a été attrapé, amené en jugement devant les autorités juives. Et devant les autorités juives, il affirme avec assurance et fermeté que Jésus est le Messie. Et on le condamne à mort et il est mis de côté et lapidé jusqu'à la mort. Donc nous lisons une scène de cette lapidation au verset 54, c'est écrit « En entendant ces paroles, donc Étienne qui annonçait les paroles qui montraient que depuis l'Ancien Testament, Dieu a parlé aux Juifs pour recevoir la venue de Jésus. Et ces gens-là se sont fâchés. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts. » et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ses paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, la conclusion est extraordinaire, le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Nous assistons à une scène de tristesse, de désolation, de brisement. Et c'est une scène qu'aujourd'hui encore, nos frères et sœurs de certains pays continuent à vivre. Où vous allez vous réveiller un matin, vous apprenez que le pasteur a été tué par des assassins musulmans ou hindous ou autres communistes. Ou bien il a été emprisonné pour 10 ans. Ces chrétiens vive ce que nous venons de lire là. Des persécutions vives et sérieuses. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. C'est vrai que, physiquement, humainement parlant, nous ne vivons pas les mêmes souffrances que ces gens-là. Nous envoyons nos enfants à l'école et nous pensons naturellement qu'ils vont revenir. Mais les chrétiens de ces pays-là ne sont pas comme nous. ils envoient les enfants à l'école, ils ne savent pas s'ils vont revenir. Ou le papa sort aller prêcher dans une ville à 30 km, on ne sait pas toujours s'il va revenir. Ils vivent physiquement la persécution. Et je peux dire, bien-aimé, que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de ne pas savoir que ton enfant viendra. Ce n'est pas facile d'avoir un papa en prison pour 4 ans, 5 ans et celui qui faisait nourrir toute la famille. C'est ce que la Bible appelle de tribulation. Et cette église naissante à partir du martyre d'Étienne a commencé à connaître de grandes tribulations. Étienne étant le premier à mourir. Vous savez, quand on est habitué à faire des miracles, à prêcher la parole, les gens se convertissent. Lorsque de telles scènes arrivent, on ne comprend pas. Il ne faut pas croire que c'est facile. Au contraire, c'est très difficile parce qu'à peine il y a 5 jours où tu as fait un miracle, il y a 5 jours où tu as converti un homme. Tu as vu donc la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester. Et 10 jours après, on apprend qu'on t'a tué. 10 jours après, on apprend qu'on t'a pris, on t'a lapidé. Imaginez, beaucoup qui vont entendre se vont dire, mais notre Dieu, sa force est finie, sa force est partie. Ce n'est pas facile de vivre des expériences, entre guillemets, de défaite. Je dis bien entre guillemets, de défaite. C'est-à-dire vivre des expériences où les choses se passent comme on ne voudrait pas que ça passe, ça se passe. On se dit, mais pourtant j'ai prié. Pourtant je n'ai pas de péché visible. Pourtant je suis sérieux dans mon engagement. Qu'est-ce qui m'arrive? Et bien aimé, c'est sérieusement déstabilisant. On se dit, n'est-ce pas qu'il est écrit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde? D'un coup, 50 islamistes viennent, ils brûlent une église, ils brûlent un bâtiment d'église. Ces chrétiens-là ont besoin à chaque fois d'une grande puissance d'en haut pour tenir dans des situations pareilles. Mais ce que je viens nous dire aujourd'hui, c'est que nous vivons la même situation d'une autre manière. Dans nos vies, à nous tous, les choses ne se passent pas toujours comme nous voulons. Et comme ces chrétiens-là, beaucoup d'entre nous abandonnent la foi. Mais ce qui est plus dur pour nous, c'est que tu peux abandonner la foi sans t'en rendre compte. Alors que ces chrétiens-là, quand ils abandonnent la foi à cause des persécutions, ils s'en rendent compte. Ils ne vont plus prier. Ils décident parfois de changer de religion. Pour eux, c'est clair quand ils renient le Seigneur. C'est clair. Mais dans nos milieux, à nous, quand les gens renient le Seigneur, ce n'est pas clair. C'est pas à pas. Dans leur cœur, ils commencent à changer d'opinion. Ils n'ont plus la foi. Ils vont venir à l'église, compléter le nombre. Ils vont détester les endroits où on parle de Dieu. Lorsqu'ils doivent sauver les apparences, ils vont venir. Mais quand ils vont entendre un verset d'encouragement, vous avez déjà vu des gens se fâcher quand vous leur donnez un verset d'encouragement. Ils sont fâchés parce qu'ils disent, mais oui, mais je connais ce verset. Ça n'a pas empêché qu'il y a 3 semaines que je tombe. Ça n'a pas empêché il y a 3 semaines. Qu'on me vole mon porte-monnaie. Et toi, tu viens avec ton verset d'encouragement, le monsieur se fâche. Pourquoi? Parce qu'il estime que Dieu a été injuste. C'est ça le problème aussi dans les persécutions, dans les tribulations. On a l'impression soit que Dieu est injuste, soit qu'il n'est pas fort, si fort que l'on pensait. Parce que dans notre esprit, c'est toujours la victoire que nous devons expérimenter d'une manière humaine. C'est dans notre esprit. Et je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont déstabilisés sont des petits chrétiens. Pas du tout. Je suis en train d'expliquer tout simplement que c'est parce qu'on a une image de la vie chrétienne qui n'est pas biblique. Et souvent, notre image de la vie chrétienne est liée à l'intelligence humaine. On se dit, si Dieu est tout-puissant, donc moi je ne peux pas perdre, je ne peux pas subir des choses qui ne me plaisent pas. Si j'ai besoin d'un enfant, il faut que je tombe enceinte. Je ne comprends pas pourquoi ça peut traîner. Je ne comprends pas pourquoi on ne m'embauche pas. J'ai réussi ma formation. Donc on se dit, on a une image selon l'intelligence humaine. Puisque j'ai réussi ma formation, puisque j'ai fait de bonnes études, il me faut un bon travail. Donc pour nous, lorsqu'on n'a pas le travail, c'est soit les démons, soit Dieu n'exauce pas nos prières. À force de vouloir une explication rationnelle, on finit par perdre la foi. Nous voulons parler du fait de tenir dans la tempête. Nous devons tenir dans la tempête. Nous lisons dans toujours Actes des Apôtres au chapitre 14, verset 22. Actes 14, 22. On peut commencer même au verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 19. Alors, survinrent à Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Donc, une scène encore de lapidation. Paul est lapidé par des Juifs et on le laisse pour mort. Est-ce que vous vous rendez compte c'est quoi la lapidation? C'est que tu es là, assis ou debout, on lance des pierres sur toi. On lance des pierres sur toi. Vous vous imaginez la douleur? Vous vous imaginez l'animosité? Être à cette place-là où on te lance les pierres, tu deviens comme un animal. Vous imaginez la colère que ça peut germer dans ton cœur. Mais malgré ça, notre frère Étienne a dit, « Père, pardonne-leur, ne leur retiens pas ce péché. » Ce sont des gens qui avaient compris le Seigneur, qui avaient compris le royaume de Dieu. Et là, Paul, lui-même, qui fait partie des gens qui avaient fait subir ça à Étienne, lui-même, il est lapidé aussi. Il est lapidé, on le laisse pour mort, et les disciples l'ont entouré. Vous vous souvenez, Paul parle d'un épisode où il est parti au troisième ciel. Nos prédécesseurs supposent que c'était en ce moment-là, quand on l'a lapidé, il était mort. On suppose qu'il était vraiment mort et qu'il est parti au troisième ciel. Entre-temps, les disciples l'ont entouré. Donc, l'entouré, ça veut dire qu'ils ont prié pour lui. Et en priant pour lui, il est ressuscité. Donc, c'est une supposition. Voilà. Donc, Paul revient à la vie. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui est écrit à la suite? Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le lendemain, est-ce que vous imaginez? On vient de le lapider aujourd'hui. Quand on prie pour lui, il ressuscite, il revient à la vie. Le lendemain, Paul va encore prêcher la parole. Qu'est-ce qu'on constate? Que ce soit pour Paul, que ce soit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, la persécution, les tribulations favorisent l'évangile. Mais ce n'est pas l'idée que nous avions autrefois. Ce n'est pas ce que nous voyons aussi autour de nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a tellement de logiques mathématiques dans les humains, dans les chrétiens, que les tribulations ont pour conséquence directe la baisse de la foi. Ils ont une logique simple. Dieu est tout-puissant, rien de mal ne doit m'arriver. Dieu est tout-puissant, tout doit marcher pour moi. Dieu est tout-puissant, mais pourtant, il y a tant de versets qui parlent de ce que je suis en train de dire. Psaume 34, Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a tant de versets qui en parlent. Psaume 112, verset 7, c'est écrit, « Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. » Donc, les mauvaises nouvelles arrivent au juste. Nous avons l'exemple de Job. Mais les faux prédicateurs de prospérité, de réussite, ont tellement pollué le milieu chrétien. Ils ont mis dans la pensée du chrétien que la souffrance était un péché, était une erreur, était un manque de foi, était synonyme de manque de foi. La souffrance n'est tombée que sur les chrétiens qui ont peu de foi, qui n'ont pas d'ambition. La souffrance, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Et ils ont pollué l'atmosphère, de sorte que même les justes, c'est écrit dans Psaume 11:3, quand les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il ? Donc même les vrais chrétiens sont trompés. Et donc, quand vient la tribulation, même les vrais chrétiens sombrent. Ce n'est pas normal. Nous avons pris l'exemple de deux exemples dans la parole de Dieu où la tribulation et la persécution entraînent directement la progression de l'évangile. Parce que c'est des gens qui avaient expérimenté c'est quoi l'évangile. Ils avaient vu leur propre Seigneur. Ils ont vu le Seigneur crucifié à la croix. Ils ont vu le Seigneur crucifié à la croix. Donc pour eux, ce n'était pas étonnant qu'eux aussi souffrent. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, il est même dit qu'ils étaient contents d'avoir été fouettés à cause du nom de Jésus. Ils étaient même contents. Parce qu'ils se sont dit, ce qui est arrivé à notre Seigneur est en train de nous arriver. Et le Seigneur nous a prévenus. Il nous a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si on a détesté le maître, on vous détestera aussi. Mais les faux prédicateurs de la prospérité ont pollué l'Église. Les prédicateurs de la réussite terrestre, ils ont pollué. Les chrétiens ne veulent plus souffrir. Ils ne veulent plus subir les contrariétés. Ils veulent que tout ce qu'ils demandent, que Dieu leur donne. Or, c'est écrit dans 1 Jean 5, 14 à 15. Si vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, ils vous écoutent. La volonté de Dieu ne les intéresse plus, mais c'est leur prière qui les intéresse. Quelle prière je dois faire? Quel jeûne je dois faire? Quel sacrifice je dois faire pour que je reçoive ce que je demande? Ils ne réfléchissent que par rapport à cela. Quelle prière je dois faire? Quel jeûne je dois faire? Quel sacrifice je dois faire? Et c'est comme ça qu'on les trompe en disant, mais oui, mes frères, vous, vous croyez que les bénédictions viennent dans le vide? Voyez telle femme dans la Bible, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait donné ceci. Tel homme, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait donné cela. Et on les trompe en leur sortant de l'argent. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les gens, comme ils veulent la réussite rapide, on leur fait acheter les bénédictions. On leur dit, si tu n'es pas béni, c'est parce que tu ne donnes pas à Dieu. Tu ne donnes pas. Et donc le chrétien, lorsqu'il échoue dans quelque chose, lorsqu'il ne reçoit pas quelque chose qu'il attend, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas donné? Quel sacrifice n'ai-je pas fait? Et c'est ainsi qu'ils se font manipuler par les prédicateurs de la réussite. Mais ce que Dieu attend, c'est qu'on se livre entièrement à lui. Vous savez, je me suis posé la question, mais comment Dieu peut laisser des enfants orphelins, le papa aller 10 ans en prison à cause de l'évangile? Comment le Seigneur peut-il permettre que des enfants voient leurs parents, on leur tire dessus devant eux à cause de l'évangile? Mais le Seigneur veut que nous lui appartenions. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Vous ne vous appartenez plus. » Mais comment cela va être montré qu'on ne s'appartient plus? C'est dans des situations comme ça, où des choses nous arrivent que jamais nous on n'aurait imaginé ni décidé. Cela montre qu'on ne s'appartient plus. Cela montre qu'on s'est livré au Seigneur. Cela montre qu'on fait confiance en Dieu. Je meurs, mais Dieu s'occupera de mes enfants. Ainsi, notre frère David nous a laissé le verset, « Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alan Yuan a fait 22 ans en prison en Chine, et Dieu s'est occupé de ses enfants. Quand il est sorti de prison après 22 ans, ses enfants étaient mariés, étaient en bonne santé, ils avaient du travail. Et un jour, sa femme, dans la détresse, avait reçu un colis et elle recevait un colis régulièrement. Elle ne savait pas qui envoyait ça pendant que son mari, pasteur, était en prison. Dieu s'occupe. Il veut ces deux choses-là. Qu'on se livre à lui et qu'on lui fasse confiance. Et cela passe par les tribulations. Maintenant, lisez ce que Paul dit maintenant au verset 22. Donc, quand ils ont fait des disciples au verset 21, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans les tribulations, bien-aimés, il y a la souffrance physique, la persécution directe physique. Dans les tribulations, il y a la persécution du péché, la puissance du péché qui nous attaque, les tentations, toutes sortes de séductions liées au péché, tentations par rapport à l'argent, tentations par rapport aux mauvaises choses impudiques, tentations par rapport à la colère. Dans les tribulations, il y a le fait de vivre dans un monde injuste. Que tu vives l'injustice à la télé, que tu regardes ça, que tu vives ça à côté de toi. Ça fait partie des tribulations, assister à tous ces spectacles injustes. Ça fait partie des tribulations. Dans les tribulations, bien-aimés, c'est tout ce qui est lié à notre corps. Notre corps qui un jour nous trahit, on nous attrape avec un problème de dos, un problème de poumon. Voilà, c'est ce que Psaume 112 appelle les mauvaises nouvelles. Ça fait partie des tribulations parce que dans notre logique, dans notre tête, on a une logique d'éternité et de perfection. Donc à chaque fois qu'il y a ces impairs-là, ça fait partie des tribulations. Les tribulations, c'est quoi? C'est les mésententes avec les humains. C'est les tribulations. Les tribulations, c'est aussi toutes nos attentes qui ne sont pas exaucées. Ça fait partie des tribulations parce qu'au ciel, hein, il n'y aura pas une prière qui ne sera pas exaucée. Au contraire, dès que tu penses à quelque chose, la chose vient à l'existence. Donc, être sur terre, c'est être livré à des prières parfois non exaucées au moment où nous attendons. Ça fait partie des tribulations parce qu'au ciel, ça ne sera pas comme ça. Les tribulations, c'est ça. Être contrarié par la réalité des choses. J'aurais voulu une telle chose, mais voilà ce qui ça me contrarie. Un enfant qui ne réussit pas son bac, c'est des tribulations qu'on a sur terre. Un licenciement, c'est des contrariétés. Un diplôme non utilisé, c'est des contrariétés qu'on a sur terre. Vivre avec des chrétiens touristes, c'est des tribulations. Parce qu'on se serait attendu à ce que tout chrétien soit parfait. Mais il y en a qui ne sont pas peut-être chrétiens même. Vivre avec tout ça, c'est des tribulations. Et notre frère Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous irons au ciel. Donc le chemin du ciel est parsemé de beaucoup de tribulations. Ce n'est pas les tribulations qui nous donnent le ticket du ciel. C'est Jésus qui nous donne le ticket du ciel par son sang précieux coulé à la croix. Mais quand on a ce ticket-là, en allant entrer au ciel, il y a les tribulations sur le chemin. Mais le ticket, nous l'avons déjà. C'est parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Ce n'est pas les tribulations qui vont nous sauver. Les tribulations, c'est notre parcours. C'est comme ça parce que nous sommes sur terre. Une terre imparfaite et remplie de mal et de péché. Tenons ferme, puisque c'est notre chemin. C'est notre parcours. Quand Dieu a donné la terre promise aux enfants d'Israël, il leur a donné... Depuis même avant qu'ils sortent d'Égypte, il a dit, je vous prépare cette terre-là, vous avez une terre. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait conquérir cette terre. C'est à toi, mais tu dois chasser les habitants qui y sont. Et en allant jusque là-bas, vous vous souvenez, Israël a fait beaucoup de guerres avant d'arriver jusqu'en terre promise. Et pour entrer en terre promise, il fallait faire encore une guerre. Mais tout le monde n'est pas entré parce que les gens, sur le parcours, ils se sont découragés. Ils se sont découragés. Ils ont eu peur. Et aujourd'hui, j'avoue, je reconnais que parfois nous avons peur. Moi, le premier, j'ai peur. Lorsque nous voyons la masse des ennemis, lorsque nous voyons la masse des tribulations. Mais le Seigneur nous dit dans Ésaïe 41, ne crains rien, ne promène pas des yeux inquiets. Voilà le message de ce soir. Ne crains rien, ne promène pas des yeux inquiets. Et dans le psaume 27, il a dit, mais le psalmiste dit, mais le Seigneur est avec moi, de qui aurais-je crainte? Ne crains pas. Les tribulations sont nombreuses, les contradictions, les contrariétés, les choses qui gênent, il y en a beaucoup. Mais la parole de ce soir, c'est que tu dois tenir ferme dans la tempête. C'est par beaucoup de tribulations que vous devez entrer dans le royaume de Dieu. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations. Mais moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. On aura des tribulations. Vous savez, les tribulations, c'est aussi les projets. Hein? Tu as un projet, mais un projet dans le Seigneur, bien sûr, mais tu ne sais pas par où commencer. Ça fait partie des tribulations. Quand les disciples se retrouvent avec une foule, affamé. En plus, Jésus s'était écarté des villages. Il s'est écarté pour enseigner la foule. Mais les disciples, c'est des humains. Ils voient bien qu'il y a des femmes, il y a des enfants. Ils regardent l'heure. Ils se disent, oh, mais pourquoi, dans l'heure qu'ils devaient se dire, mais pourquoi le maître n'a pas réfléchi? Vous savez, parfois, on croit qu'on est plus bon que Dieu, quoi. On se dit, oh. Mais Dieu n'a pas réfléchi. Un papa qui a 5 enfants et des enfants et une femme, il va l'envoyer en prison comme ça. Il n'a pas réfléchi comment on va s'occuper de. Mais Dieu, non seulement il a réfléchi à tout, il a tout préparé. Vous savez, pour qu'on soit en paix, hein, ne pensons même pas que Dieu a réfléchi. Disons, il a tout préparé. Parce que s'il a tout préparé, il a préparé donc tout, la solution, tout ce, voilà. Mais dire seulement il a réfléchi, c'est peut-être quelque chose qui est tombé devant lui. Lui aussi, il a réfléchi comme nous on réfléchit. Non, Dieu, ce n'est pas tombé devant lui comme pour nous. Nous, ça tombe devant nous, les situations. Mais Dieu, ça ne tombe pas. C'est lui qui les a préparées. Que cela nous donne la paix. Dieu a préparé ça. Quand Alan Yuan a fait 22 ans en prison, Dieu a préparé ça. Ne nous étonnons pas. Ne soyons pas déstabilisés. Dieu a préparé. Ce n'est pas beaucoup de tribulations. Il y en a parfois qui se tiennent la tête. Aïe! Depuis le mariage. Ma femme est tout le temps en colère. Dieu a préparé ça. Il savait que tu auras une femme tout le temps en colère. Mais c'est peut-être pour briser ton orgueil à toi. Tout est préparé. Avec Dieu, il n'y a pas de surprise. C'est vrai que par notre propre chair, nous pouvons faire des bêtises, nous pouvons faire des choses selon notre volonté. Mais Dieu savait ça aussi. C'est ça encore qui est grave. Il savait ça. Et il a préparé toujours déjà la solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Il a tout préparé. Mais c'est avec beaucoup de tribulations qu'on entrera dans le royaume de Dieu. beaucoup de contrariétés. Tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à prouver qu'on est à Dieu, on lui appartient. Deux, ça sert à nous aider à nous livrer entièrement à lui. Lorsqu'on m'a établi pasteur, quelques semaines, même pas plus d'un mois est passé, ma mère est morte. Vous savez, quand des choses comme ça arrivent, ce que vous lisez, vous savez, on lit que, on a dit à Marie que son cœur, elle aura un couteau hein, placé dans le cœur. Vous savez, c'est des choses vraies. Quand quelqu'un que vous aimez beaucoup meurt, vous avez l'impression qu'on vous a transpercé. C'est une réalité. Tu as l'impression qu'on t'a transpercé. Voilà, c'est l'heure de la décision. Est-ce que tu appartiens à Dieu ou tu t'appartiens à toi-même? C'est en ces moments-là. Les tribulations, ça permet la décision. Quelle est ta décision? Voilà. Ça sert à cela. Et quand on est déchiré comme ça, mais après, j'ai appris ça le mardi, le mercredi, je suis parti prêcher parce que c'était mon tour. Voilà. Tu as pris ta décision. Tu continues ton chemin. Ça prouve que tu es de Dieu, tu appartiens au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'humainement on va dire quand ça arrive, même au boulot, on dit, mais non, monsieur, vous n'avez pas à venir demain. Reposez-vous 3 jours, on te donne 3 jours de congé au travail. Mais Dieu ne te donnera jamais 3 jours de congé. On a vu là, Paul, à peine il sortait de la lapidation, le lendemain, il va encore prêcher. Et il y a des frères, quand on va les consoler par rapport à la mort d'un parent, frère, tu ne peux pas savoir ce que c'est, parce que toi, tu as encore ta mère, tu as encore ton père, tu ne peux pas savoir ce que... Mais non, frère, la parole, tu as oublié la parole. Maintenant, c'est, tu ne peux pas savoir. Tu as oublié la Bible. Tu as oublié que Marie a été transpercée. Tu as oublié ça. Et là, c'est son fils maintenant. C'est le fils, ce n'est pas le parent. Ça, c'est encore un autre niveau. Tu as oublié. Comme nous chantons, nous n'avons pas de preuves, mais nous pensons hein, que le Père a pleuré de voir son fils crucifié. Nous le pensons. Crucifié. Alors que tu peux les libérer. Nous, nous subissons les choses, mais Dieu ne les subit pas. Il laisse faire. Il peut empêcher. Il n'a pas empêché. Mais c'est ce qu'il fallait. Il fallait que ça se passe comme ça. Alors pourquoi nous devons accepter les tribulations? Je recommence encore. C'est la preuve que nous appartenons à Dieu. Et c'est ça qui fait que dans ce déchirement-là, le Seigneur, lorsque nous continuons à le servir, ça nous amène vraiment à un service total pour lui. Ça nous amène à un service total pour lui. C'est là que nous sommes livrés vraiment à lui. On se dit, bon, je suis au Seigneur. Mon avenir est entre ses mains. Je me livre à lui. Une autre chose que je veux nous dire pour nous aider à demeurer fermes dans la tempête, disons-nous que mon sacrifice doit contribuer à l'intérêt général du royaume de Dieu. Même si pour toi tu t'es dit, vous savez pourquoi je nous dis cette phrase-là? Parce que souvent on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut encore m'apprendre que je ne sais pas? Voilà souvent ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre encore? Il y a des choses parfois dont on ne sait pas le pourquoi. En attendant, disons-nous, ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Je ne vois pas le lien, mais si Dieu veut que moi je passe par telle situation, certainement ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. C'est cela, bien-aimé. Certainement. Que cela nous encourage. Comme Jean-Baptiste, quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit ? Il faut que je m'efface et que lui sorte. Et je crois que quand on l'a condamné à mort, il s'est dit, ça contribue à ce que Jésus soit élevé. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux prophètes de cette dimension-là en même temps. Donc il faut que moi je m'efface, que l'envoyé de Dieu, le Messie, il soit seul. Moi je m'efface. Et donc quand on l'a condamné à mort, il a dû se dire, c'est le chemin que Dieu a choisi pour que Jésus soit mis en avant. Voilà. Ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Même si nous, on ne comprend pas pour nous-mêmes à quoi ça sert, mais je sais que ça sert toujours aussi pour nous-mêmes. Mais admettons qu'on ne veuille pas comprendre, disons-nous que ça contribue à l'intérêt général des enfants de Dieu. Ça contribue à l'intérêt de Dieu dans son action sur terre pour sauver l'humanité. Ça contribue à cela. Disons-nous cela. C'est la troisième raison qu'on peut se donner pour accepter les tribulations, c'est que ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Nous en avons la preuve quand dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Quand il y a eu persécution, ils sont partis de ville en ville. On a lu, c'est notre texte de début. C'est là qu'ils sont partis de ville en ville en prêchant et le nombre de croyants augmentait. Mais avant la persécution, qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient restés à Jérusalem. Alors que le Seigneur avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Eux, ils sont restés à Jérusalem. Ils sont restés là dans une bonne organisation, en train de manger ensemble, la fraternité, le copinage. C'était devenu la famille physique. Et on restait ensemble, on faisait les choses à Jérusalem. On veut rester tout près du temple. Oh, le Seigneur avait dit, ce n'est pas le temple, ce n'est pas la montagne, c'est un esprit en vérité. Et il leur avait dit, allez en Samarie, allez dans le monde entier. Et quand il y a eu persécution, c'est là que la prophétie du Seigneur, l'ordre du Seigneur a pu s'accomplir. Ils ont commencé à aller dans le monde entier parce qu'ils ont été chassés de Jérusalem. Mais pas tous, parce qu'il y avait un noyau qui était resté quand même. Donc, la tribulation contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Et même si on ne voit pas cette contribution clairement, sachons-le, disons-nous que ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui reculent à cause des tribulations, de ceux qui s'arrêtent à cause des tribulations. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Jésus le dit dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Les tribulations, ce sont ces projets qu'on a. Mais on a l'impression qu'on nous donne que... Dieu nous donne que 5 centimes, il nous demande de faire quelque chose de 1 million d'euros. Mais il nous a donné que 5 centimes. Et ça veut exploser notre cerveau. Comment arriver à faire le projet de Dieu avec 5 centimes? Donc je veux clôturer avec deux passages qui vont nous aider à demeurer fermes dans la tempête. Le premier, vous le connaissez, je ne vais pas le lire. Lorsque il se retrouve avec tous ces gens-là, en train de manger, en train d'enseigner, et les apôtres disent à Jésus, mais comment on va faire? Ces gens-là ont faim. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Voilà, bien-aimés. Dieu va utiliser les tribulations pour nous rappeler notre mission. Donnez-leur vous-même à manger. Quand on va dire, oh, ça ne va pas. Les écoles, aujourd'hui, pourrissent nos enfants. On en souffre. Dieu va vous dire, donnez-leur vous-même à manger. Occupez-vous vous-même de vos enfants. Faites le travail. Dieu va nous rappeler la mission. Quand tu vas dire, mais oui, mais il me faut de l'argent parce que j'ai besoin d'une voiture. Mais je ne comprends pas. Si je n'ai pas de travail, comment j'aurai ma voiture? Dieu va te rappeler que tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir parce que tu avais négligé ce verset parce que la logique du monde t'a saisi. C'est que les richesses viennent du travail. Or, la Bible dit que la richesse, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Je ne dis pas que l'argent, le travail ne produit pas la richesse. Je dis que nous, les enfants de Dieu, nous savons que le travail n'est qu'un moyen. Mais la richesse, la source, c'est Dieu. Et souvent, on est pris, on oublie notre héritage, on oublie notre mission. Et la tribulation va te rappeler. La tribulation te rappellera. Dans Psaume 27, 10, c'est écrit, mon père et ma mère me rejeteront, mais Dieu me recueillera. La tribulation te rappellera ta destinée. Tu as maintenant un nouveau père, mais tu avais oublié ça. La tribulation viendra nous rappeler la mission divine. Donc quand la tribulation est là, quand je dis tribulation, c'est tout. Hein? Les projets, le péché, les persécutions. Ouvrons bien les yeux, on verra notre mission quelque part. On verra notre héritage quelque part qu'on a oublié et la tribulation nous rappelle ça. Pression par rapport au péché. Soyons humbles, ouvrons l'esprit, on entendra le message du Seigneur. Deuxièmement, nous lisons dans Luc au chapitre 8. Luc au chapitre 8. Verset 49. Nous connaissons l'histoire de Jaïrus. Il vient pleurer auprès de Jésus. Sa fille est mourante. Et Jésus se dirige pour aller prier pour sa fille. En chemin, voilà ce qui se passe. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et quand ils sont partis, Jésus-Christ a guéri, a ressuscité la fille. Elle était déjà morte. Le monsieur, il était défait. Vous savez, il y a des tribulations, quand ça vient, c'est comme si tu es mort. Tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir. C'est la fin, c'est la mort. Le diable, les humains, ton raisonnement te dit, c'est pas la peine. Laisse tomber la foi chrétienne. Vous savez, la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs. Regarde dans quel état tu es. Ce n'est pas la peine. Laissons tomber. Mais Jésus te dit quoi? Ne crains pas. Crois seulement. Voilà. Pas seulement ne crains pas. Il rajoute, crois seulement. Ça veut dire quoi? C'est un refus de raisonner. Tu dis, je ferme le robinet du raisonnement, je m'accroche au Seigneur. C'est tout. Je ne sais pas d'où viendra la solution, comment il va faire. Mais je garde ma foi. Comment tenir dans la tempête? Garder la foi. Bien-aimé, garder la foi, ça ne veut pas dire ne pas souffrir. Tu souffres et tu gardes la foi. Tu souffres, mais tu attends. La délivrance. Tu gardes la foi. Il a dit à Jaïrus, ne crains pas. Donc, ne te laisse pas aller dans les raisonnements, comment ça va être résolu. Toi, crois seulement. C'est ça qui nous sauvera de la tribulation. Crois seulement. Vous savez comment? Vous savez qu'un enfant ne respire pas par le nez dans le ventre de sa maman. Hein. Il ne respire pas par le nez. Mais s'il avait notre âge, il a dit, mais oh, Mais Dieu, tu veux me sortir là, du ventre? Mais je vais respirer comment? Et Dieu lui dira, ne crains pas, tu vas voir comment tu vas respirer. Parce que comme il n'a jamais respiré par le nez, il ne peut pas savoir que c'est le nez qui va le faire respirer. Mais Dieu dit, sors, il y a un autre moyen. Sachant, bien-aimé, qu'il y a un autre moyen. Alors, c'est souvent un moyen que nous, on ignore. Parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté, mais Dieu connaît ce moyen. Ne crains pas, crois seulement. C'est tout. Ne passe pas ton temps à réfléchir sur la manière dont tu vas t'en sortir. Passe ton temps à croire en Dieu, à t'accrocher à lui, à dire, Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es ma solution. Il n'y a que toi. Passe ton temps à lire comment Dieu a libéré les autres, a sauvé les autres. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi à la croix? Passe ton temps dans ce genre de choses. Ne passe pas ton temps à réfléchir comment tu peux t'en sortir. Et troisièmement, bien-aimé, nous n'allons pas lire ça, nous connaissons dans Jean 21. Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, mais oui, Seigneur. Jésus lui rappelle la mission. Paie mes brebis. C'était une preuve pour Pierre. On lui demande, est-ce que tu m'aimes? Quelle honte pour quelqu'un qui aime le Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? Mais Jésus était en train de nous donner la clé de la victoire dans les tribulations. C'est aimer Jésus. Vous savez, frère, si tu aimes Dieu, cela suffit. Dieu va s'occuper du reste. Pierre venait de connaître un grand échec. Un grand échec dans lequel nous, peut-être, on n'est jamais tombé. Renier le Seigneur. Renier le Seigneur. Vous vous souvenez, Pierre disait, Seigneur, pour toi, je vais même mourir. Personne ne me séparera de toi. Mais c'est une femme qui a fait peur à Pierre. Mais tu faisais partie des disciples. Ah, mais non. À trois reprises, et Jésus l'a regardé. Il est écrit, Pierre a pleuré amèrement. C'était une épreuve qui devait finir Pierre. Parce que Satan savait que c'est Pierre que Dieu a choisi pour piloter l'Église dans ses débuts, pour être une colonne pour l'Église dans ses débuts. Et Jésus, c'est pourquoi je vous dis, frère, tout est préparé. Ce qui est arrivé à Pierre, Jésus lui avait prédit parce que c'est préparé. Dieu a déjà préparé tout. Et Jésus a dit même à Pierre, non seulement il avait prédit le reniement de Pierre, il avait prédit aussi que Pierre s'en sortira. Il lui dit dans Luc 22, Satan a demandé à te cribler Pierre, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ça ne réussisse pas. Et quand tu t'en sortiras, tu affermiras tes frères. C'est pourquoi la Pentecôte, qu'est-ce qui a pris la parole? Pierre, devant la foule, pour dire, pourquoi vous vous étonnez? Il a prêché l'évangile, il a fortifié les frères. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, qui est-ce qui a fait lever le garçon qui était infirme? C'est Pierre. Et quand la foule est venue, c'est Pierre qui a tenu encore la chose pour dire aux gens que Jésus était le Messie et fortifier ses frères. Qui est le premier à avoir prêché aux païens? C'est Pierre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, il a prêché à un soldat, Corneille, romain. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui dit, mais je t'aime, Seigneur. Il fallait ressusciter Pierre. Mais comment ressusciter Pierre après un tel échec? Bien-aimé, rendez-vous compte de qui était Pierre parmi les disciples. Et c'est lui qui a régné. C'est le genre d'échec qui te finit totalement. Au fait, qui t'enlève même toute espérance pour l'avenir. C'est-à-dire que tu vas recommencer ta vie, mais en te disant un jour, je vais faire encore des bêtises. un jour je vais renier encore le Seigneur. Si alors que le Seigneur était encore vivant, je l'ai renié, ce n'est pas absent que je ne veux plus le renier. Donc ce sont des épreuves, ce sont des tribulations qui font que ton avenir n'est plus assuré. Mais il fallait ressusciter Pierre. Comment ressusciter Pierre? Jésus a voulu lui montrer, Pierre, il suffit que tu m'aimes. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin de tuer pour moi. Tu n'as pas besoin de faire de belles poésies pour moi. Tu tiendras parce que tu m'aimes. Alors qu'avant, tu pensais tenir par tes sentiments pour moi, par ta propre force. Mais je te annonce que tu vas paître mes brebis parce que tu m'aimes. C'est en m'aimant que tu tiendras jusqu'au bout. Alors, frère, au lieu de passer notre temps, sœur, à chercher en nous quelle force nous avons pour tenir face au péché, quelle force nous aurions pour tenir face aux tribulations, quelle force on aura lorsqu'on aura une mauvaise nouvelle, au lieu de réfléchir à tout ça, méditons notre amour pour le Seigneur. Jésus a voulu faire méditer à Pierre dans cet entretien-là. Il fallait que Pierre médite. Vous savez, méditer, c'est réfléchir profondément. Ce n'est pas la surface, c'est le profond. Il fallait que Pierre se rende compte, mais j'aime le Seigneur et je peux tout faire pour lui. Je l'aime. C'est une question d'amour. Et Jésus avait guéri Pierre à travers ce discours-là. Pierre savait maintenant qu'il aimait réellement le Seigneur et qu'il n'avait pas peur de l'avenir. Il a dit au Seigneur, vous savez, Pierre a reçu cette assurance. Hein? Il a dit, comment on le sait? Il dit au Seigneur, Seigneur, je ne vais pas chercher à le prouver. Tu sais ça dans ton cœur. Mais celui qui n'est pas sûr de son amour pour Dieu va toujours chercher à le prouver. Voilà. Il veut faire quelque chose, il veut prier, il veut lire la parole, il veut faire des choses pour prouver qu'il aime Dieu. Mais celui qui aime Dieu, il dit, Seigneur, tu le sais, parce que tu lis dans les cœurs. Tu sais que je t'aime, Seigneur, et que sans toi, je ne peux pas vivre. Et de telles personnes, ils vont faire des grandes œuvres pour Dieu, ils vont souffrir pour Dieu, mais ils n'en tiennent même pas compte. Ils ne mettent pas ça comme une sorte de trophée. Non, ils le font par amour. Comme notre frère Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 5, il dit, l'amour du Seigneur nous presse. Ça nous presse. Nous savons que si un est mort pour nous, tous nous devons mourir pour lui. C'est l'amour du Seigneur qui pressait Paul. Ce n'est pas la volonté de réussir, de briller sur terre. C'est l'amour pour le Seigneur. Bien-aimés, servons le Seigneur par amour. Moi, je dis aux gens aujourd'hui, là, nous sommes dans une grande salle, nombreux en train de discuter, d'écouter la parole, de chanter. Mais quand je vais prêcher à deux personnes, je suis tout autant bien, joyeux, parce que c'est le service du Seigneur. Ça se fait par amour, ça ne se fait pas par réussite, par esprit de réussite. Ça ne se fait pas parce qu'on veut faire des grandes choses, ça se fait parce qu'on aime le Seigneur. Et si on doit faire 800 km pour trois personnes, on va le faire parce que nous aimons le Seigneur. Lorsque nous sentons son appel, nous allons. C'est ça, bien-aimé. L'amour pour le Seigneur nous donnera la victoire. Aimons le Seigneur. Et nous sommes sûrs de vaincre malgré les tribulations. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à t'aimer, à vivre pour toi, Seigneur. À ne pas trop réfléchir sur nos capacités, mais à réfléchir, à méditer notre amour pour toi. Et lorsque viennent les tribulations, que nous puissions juste garder la foi. Garder la foi, se dire qu'il y a des solutions qui ont été déjà prévues par toi. Nous devons être attentifs lorsque viennent les tribulations pour réaliser quelle mission, quelle parole, quel héritage nous avons négligé et replacer cet héritage afin d'expérimenter la victoire. au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, et amène-nous dans l'amour parfait pour toi, Seigneur. Comme c'est écrit dans Cantique, au chapitre 2, « Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. » Que nous puissions dire cela vraiment dans le nom de Jésus. Je t'aime plus que tout, je t'aime plus que tout, je t'aime.
Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur.
Je t'aime.
Je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie.
Seigneur, je te donne ma vie.
Seigneur, je te donne ma vie.
Seigneur, je te donne mon cœur.
Seigneur, je te donne mon cœur. Je t'aime plus que tout, je t'aime plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur.
Oui, Seigneur. Nous disons comme Pierre, Seigneur. Toi qui lis dans les cœurs des hommes, tu sais que nous t'aimons, Seigneur. Nous prions que tu fortifies cet amour, que tu fasses grandir cet amour encore davantage. Au point que nous soyons prêts à nous sacrifier pour toi, Seigneur. Purifie-nous de la logique charnelle qui nous pousse à chercher la victoire dans nos propres efforts et nos propres forces pour s'enorgueillir plus tard. Nous voulons puiser dans ton amour, demeurer dans la foi et dans ton amour. Et nous croyons à la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen.
Que Dieu nous bénisse.